formation en termes de déchets ou pas. Donc déjà, rapidement, situer ce que c'est l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'Agence donc, de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On est un établissement public, donc on n'est pas un service de l'État, on n'est pas non plus une boîte privée complètement, qui intervient par contre pour le compte de l'État pour développer les politiques en matière donc, de déchets, hein, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, en matière d'énergie, donc avec différentes composantes, en matière de qualité de l'air, en matière de transport. Donc rapidement, pour vous souvenir, on s'occupe d'un peu tous les thèmes, sauf l'eau et ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire l'environnement naturel. Donc sur ces sujets, donc, on met en œuvre ces politiques auprès de quasiment tous les publics de la société, hein, puisqu'on intervient à la fois auprès des collectivités, on intervient auprès des entreprises, de façon individuelle ou collective d'ailleurs. On intervient aussi auprès du grand public, plutôt sur de la formation et sur de la sensibilisation. Et les moyens sont très variés. Je veux dire, on finance de la recherche, on finance de la formation, de la sensibilisation, de l'éducation à l'environnement. Et puis on finance des études plus techniques et pas mal d'investissements également. Donc ça, c'était un premier balayage. Donc l'ADEME au niveau national est organisé entre un siège et des délégations régionales, donc dans chaque région administrative. Donc ici, on est en PACA, donc 6 départements, 5 millions d'habitants. Donc on est une des plus grosses délégations donc de l'ADEME en France. Physiquement, j'ai 30 collaborateurs qui sont basés à Marseille, qui travaillent sur ces sujets, donc ce qui est à peine suffisant pour la tâche à laquelle on s'attelle. Donc pour les déchets, je vais peut-être vous faire des rappels d'ordre général, et puis surtout, je vais bien vous restituer la problématique des déchets ménagers, sur laquelle vous avez visiblement déjà travaillé, et la problématique des déchets d'entreprise, qui est assez différente, on va le voir, à la fois en termes réglementaires, en termes de solutions techniques. Donc les déchets ménagers, tout d'abord, c'est sous-tendu par... Donc je vais me servir de ce tableau pour vous mettre quelques éléments de mon intervention. Je ne sais pas si vous voyez tous avec le vert. Donc le premier élément, c'est un aspect, je dirais réglementaire. Voilà. Par quoi est sous-tendue la politique des déchets ménagers ? Bon, ben, comme dans un peu tous les pays, il y a une réglementation qui de plus en plus d'ailleurs est européenne. En tous les cas, il y a une réglementation française qui est basée sur une loi qui est toujours en vigueur, qui est une loi de 1992. Qui disait principalement que 10 ans après, c'est-à-dire en 2002, ne devait arriver, donc soit dans les décharges, ce qu'on appelle couramment décharge, soit dans les incinérateurs, des déchets dits ultimes, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu valoriser autrement. Donc ça, c'est à avoir en tête, c'était 2002. Je dis c'était parce qu'on a passé 2002, on n'a pas forcément atteint les objectifs. Donc que des déchets dits ultimes, donc sachant que la définition d'ultime était très... laissé à l'appréciation de pas mal de gens dans les unités de traitement. Donc c'est la base un petit peu de toute la politique française en matière de déchets. C'est la première chose. Deuxième chose importante, c'est les responsabilités. Là, on parle bien de déchets ménagers. Alors les déchets ménagers... et assimilé, d'ailleurs, c'est le nom officiel. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces déchets ménagers et assimilés ? Donc, je fais un petit... Donc, vous avez les déchets des ménages, c'est-à-dire le grand public, c'est vous, c'est moi, ce qu'on met dans nos poubelles à nous. Donc, le grand public, c'est vraiment les ménages. Vous avez, par ailleurs, les déchets des collectivités elles-mêmes. Une mairie, par exemple, génère des déchets, forcément, dans son activité. Donc, des déchets de collectivité. Et puis, vous avez également une partie de déchets qu'on essaye de diminuer. Et on retrouve aussi des déchets d'activité économique. Pourquoi on en retrouve ? On va l'expliquer un peu tout à l'heure. C'est parce que, normalement, les entreprises sont responsables de leurs déchets, mais dans la pratique... un certain nombre de collectivités ramassent sans discernement les déchets des entreprises et les déchets des ménages. Donc les déchets ménagers et assimilés, normalement, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'était Une petite parenthèse, si j'avais un petit torchon, une petite. Bon. Donc la responsabilité de la collecte des déchets, donc collecte et traitement. Donc c'est la commune. La responsabilité de base, c'est la commune. C'est-à-dire que vous êtes à Aix-en-Provence, tant que vous êtes sur le territoire d'Aix-en-Provence, c'est la commune d'Aix-en-Provence qui est responsable de la collecte et du traitement de vos déchets. Si vous êtes la commune mitoyenne, c'est la commune mitoyenne qui s'en occupe. Simplement, au niveau de l'organisation du traitement des déchets, vous comprenez bien que chaque commune peut à la limite s'occuper du traitement de la collecte de ses déchets. Elle peut sûrement pas s'occuper du traitement. Va avoir une usine de traitement ou une décharge par commune. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a mis en place, en fait, se sont mis en place progressivement ce qu'on appelle des établissements publics de coopération intercommunale. Donc, établissements publics de coopération intercommunale. Donc, certains ont une compétence collecte. Donc, ils vont gérer les camions de ramassage, d'ordures, etc. Et on va voir qu'ils vont pouvoir développer une certaine politique en matière de collecte. Et puis, certains autres EPCI sont chargés du traitement. Ça peut être les mêmes, ce n'est pas toujours les mêmes. Donc, rappelez-vous, hein, la responsabilité de démarrage, elle est à la commune et elle est officiellement, hein, par des textes bien précis, déléguée à des établissements publics, donc ce qui collectent ou qui traitent ces déchets. Donc ça, c'est un point important à rappeler en préambule. Ensuite, on a une politique, d'abord quelques points de repère, les chiffres clés. Ce que vous entendez, vous avez dû voir une campagne qui s'appelle Réduisons vite nos déchets, ça déborde, donc une campagne qu'on a conçue à l'ADEME, qui parle de 360 kilos par habitant et par an de production de déchets ménagers. Donc ça, on parle bien de déchets ménagers stricto sensu, c'est-à-dire les déchets des ménages. Si on parle de déchets ménagers assimilés, donc ça, on parle bien de chiffres nationaux, donc 360 kilos de déchets par habitant et par an. Ça, c'est déchets ménagers. Et les déchets ménagers ou assimilés, on est à 450. Donc les assimilés. Donc y compris les collectivités, etc. Alors ça, c'est une moyenne nationale. Pour vous donner une idée, en PACA, on n'est pas du tout sur ces mêmes chiffres, parce qu'on est quand même un peu en PACA. Toujours sur ces mêmes chiffres, ici, on est à environ 500. Et ici, on est environ à 750. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose quand on doit dimensionner un système de collecte et de traitement, si on a 450 kilos par habitant ou si on en a 750. Bon, je ne vais pas détailler les raisons pour lesquelles on y est. Principalement, il y a un problème de variation de population, notamment touristique. Et puis aussi, on est une des régions où on fait le plus de tournées de collecte par semaine. Et donc, comme dans toute chose, plus vous avez d'offres, plus vous avez une demande qui suit. C'est-à-dire que les gens, on ramasse les poubelles une fois par semaine, finalement, on s'aperçoit qu'ils produisent moins de déchets que si on les ramasse 6 fois par semaine. Donc ça, c'était quelques chiffres clés à rappeler. Autrement, maintenant, bon, je vais peut-être effacer parce que le tableau n'est pas très grand. Donc c'est enregistré, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. On va passer un petit peu à l'enchaînement des différentes phases et voir un peu les politiques qui sont mises en place en face de ces phases. Donc, premièrement, il y a la production des déchets. Donc, jusqu'ici, il n'y avait, enfin, jusqu'à il y a 2-3 ans, il n'y avait aucune politique officielle, je dirais même du monde économique en général, pour réduire la production des déchets. Parce que pour avoir besoin de jeter un déchet, il faut déjà le produire. Donc là, c'est un peu tout le monde qui est responsable, hein. C'est les industriels qui vendent un certain nombre de choses qui se jettent ou qui ne se jettent pas. Donc on peut jouer sur beaucoup de facteurs, c'est la durée de vie des produits. Parle bien de production à la source. Ensuite, on peut jouer sur les emballages. Vous savez comme moi que vous allez acheter une carte mémoire micro SD machin bidule qui fait royalement 1 cm². Elle est dans un emballage qui doit peser à peu près 20 fois ou 40 fois, voire plus, le poids de cette clé. Alors c'est pour des problèmes de sécurité, c'est pour des problèmes qu'on peut imaginer, de packaging, de communication, tout ce qu'on veut. Mais en tous les cas, on se rend bien compte que les emballages et les suremballages, ça représente quelque chose sur lequel on peut jouer. Pour mémoire, nos prédécesseurs, au début du siècle, il n'y avait aucun emballage qui était jeté. C'était des papiers, des journaux. On emballait certaines choses dans des papiers journaux. On n'avait pas de sac plastique, on n'avait pas de paquets en plastique dur, etc. Donc tout ça, on peut jouer là-dessus. Toujours en production des déchets, donc là, on est sur. On peut avoir aussi des choses qui seraient vendues en vrac. C'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps, beaucoup de choses se vendaient en vrac. Les légumes, déjà, commencez par les légumes. Maintenant, vous trouvez quand même beaucoup plus de légumes qui sont déjà tout emballés. Les vis, ça se vendait au poids ou à l'unité chez les droguistes. Et puis, pendant de nombreuses années, on s'est mis à emballer des vis. On faisait des paquets pour mettre 3 vis, bon, etc. Maintenant, alors, justement, sur ce sujet, vous avez dû remarquer, pour ceux qui vont dans les magasins de bricolage, on est en train de revenir à des solutions qui permettent d'acheter au poids un certain nombre de choses. Donc, on diminue d'autant les déchets. Et puis, dernière chose, ça c'est vraiment en amont, tout à fait en amont, c'est les déchets de les productions des produits. Déchets de production, pardon. Donc là, on y reviendra parce que ça, c'est vraiment le sujet des entreprises qui fabriquent des produits. Donc ça, c'est la première politique qu'on peut développer, c'est réduire les déchets à la source. La deuxième chose qu'on fait, forcément, alors ça c'est très, très, très nouveau. Hein. La deuxième phase, c'est évidemment la collecte des déchets. Donc la collecte des déchets, ça existe depuis plus de 100 ans dans les grandes agglomérations. Bon, ça consiste à ramasser les poubelles, pour faire simple. Donc là, il y a quand même des politiques qui ont été mises en place petit à petit qui sont quand même assez ancré maintenant dans nos territoires, peut-être moins en PACA que dans d'autres régions plus nordiques. On a d'abord ce qu'on appelle la collecte sélective. Donc la collecte sélective, bon, je sais que c'est encore pas complètement diffusé en PACA, on est bien placé pour le savoir puisqu'on l'a financé pendant longtemps. Ça consiste à ne pas jeter toutes ces poubelles dans la même poubelle et à trier au niveau ces déchets dans le circuit de collecte à les séparer, donc c'est un acte que fait la personne. Donc typiquement en France on a un référentiel qui permet d'avoir 3 types de déchets plus les autres, enfin, les déchets classiques, enfin le résiduel. On a le verre qui est peut-être le plus ancien d'ailleurs, la collecte du verre remonte à peu près une vingtaine d'années. On a les papiers journaux. On a les emballages, donc qu'ils soient d'ailleurs plastiques ou métalliques, et puis on a le résiduel. Il faut savoir que dans d'autres pays, par exemple les pays du nord de l'Europe, on peut avoir jusqu'à 7 ou 8 possibilités de tri. Les champions du monde, c'est certains japonais, je ne sais plus dans quelle ville, ils ont 15 poubelles. Bon, là, ça commence à être compliqué, ils séparent l'aluminium fin, l'aluminium épais, etc. Donc ça présente quel intérêt? Ça présente l'intérêt que si on ramasse du verre dans un conteneur à verre, on va pouvoir le mettre dans une filière de recyclage bien précise. Donc tout ça, ça va être traité en direct et on aura un paquet homogène de déchets, hein, puisqu'on n'aura que du verre, que du papier, que du plastique, modulo les emballages, je vais y revenir. Et le résiduel, ça partira, on va voir, dans des unités de traitement. Donc ensuite, après la collecte sélective, on a le tri. Donc où est-ce qu'on a besoin de tri? Donc si tout ça a été fait en amont, bon, on vérifie, bien sûr, les gens qui collectent le verre, les papiers journaux vont vérifier qu'il n'y a pas autre chose au milieu, c'est évident. C'est surtout sur les emballages. Parce qu'en fait, les emballages, vous pouvez avoir des emballages, d'abord des emballages souillés qui posent un problème, donc ceux-là, il faut les sortir. Hein. Un carton de pizza qui a rempli de pizza, on ne peut pas le mettre dans un circuit de collecte. Et puis surtout, il faut qu'on sépare. Donc dans les emballages, on peut avoir des emballages papier, des emballages en plastique, des emballages en fer, etc. Donc c'est surtout emballage. Donc il y a des centres de tri qui sont encore manuels, faut le savoir. Hein. Il y a des gens qui sont sur des tables de tri, qui voient passer des trucs et qui séparent à la main ce genre de choses. Bon, même s'il y a des, il commence à y avoir des unités automatiques avec des systèmes de reconnaissance par caméra pour trier ces déchets. Donc il y a des centres de tri. Donc quand on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait donc de... Donc on arrive au traitement. Donc là, je vais peut-être changer de page, entre guillemets. Donc on a bien trié les déchets et on se retrouve avec des déchets de différentes natures. Donc on arrive dans les filières de recyclage. Alors les filières de recyclage, donc la majeure partie des filières sont dédiées, on l'a vu, hein, à des types de déchets précis. Donc on a le verre, donc on l'a dit tout à l'heure. On va avoir tout ce qui est papier journaux, donc ça c'est relativement simple. Alors au passage, on va aussi avoir des filières de recyclage qui ne sont pas forcément dans vos poubelles. Donc il y a des obligations et d'obligations. On recommande très fortement au public, par exemple, de ne pas mettre ses piles. De ne pas mettre tout ce qui est déchets toxiques. C'est-à-dire que vous avez un fond d'acétone, essayez de ne pas le mettre dans la poubelle. C'est effectivement, ça, on va voir les problèmes que ça peut soulever derrière. Vous avez un système de collecte pour les batteries. Vous avez un système de collecte pour les vieux pneus, etc. Et on va voir que la liste s'allonge. Je vais en parler. Donc ces deux premiers... thèmes sont relativement maîtrisés. Le retraitement des vieux pneus, ça marche bien. Au passage, qu'est-ce qu'on fait des vieux pneus? On en fait en général de la poudrette de caoutchouc. C'est-à-dire on les broie, on enlève la carcasse qui est à l'intérieur, on broie en toutes petites particules de caoutchouc qui sont utilisées par exemple pour faire des revêtements routiers, un certain nombre de choses en matière de BTP. Le verre, bon, bien sûr, on en refait du verre neuf, hein, évidemment. Sachant que, comme on a du verre mélangé, on ne fait que du verre teinté, en fait. On ne peut pas faire faire du verre blanc. Et les papiers journaux, en général, on en fait des cartons d'emballage. Parce que pour la même raison, on a du mal à refaire du papier complètement blanc à partir de papier recyclé. Et il y a aussi quelques industriels qui font des papiers recyclés, mais qui ne sont pas forcément issus des poubelles classiques. Il y a un tri un peu plus fin. Les piles, c'est très compliqué parce qu'il faut les ouvrir, enlever le mercure, le plomb, enfin toutes les saloperies qu'il y a dedans. Donc c'est des filières très très spécifiques. Les déchets toxiques, là ça va en général en incinération. Il n'y a pas d'autre solution à très haute température. C'est la seule façon d'enlever toutes les molécules polluantes qu'il pourrait y avoir, être sûr notamment qu'elles ne se diffusent pas dans l'air au moment où on les brûle, c'est les brûler à très haute température. Les batteries, donc il y a un recyclage spécifique. Les batteries, il y a deux choses très embêtantes. Enfin, les batteries jusqu'ici classiques, c'est le plomb, donc qui est un métal qui fait partie de ce qu'on appelle les métaux lourds, qui est très dangereux, enfin, qui est un des métaux dangereux pour l'environnement. Et puis on a évidemment l'acide chlorhydrique qui est dans les batteries, donc qui est récupéré à part. Et puis se rajoute là-dessus, donc ça c'était relativement, enfin ça existe déjà depuis un certain temps. Alors petit détail, donc ça on a vu que c'est plutôt au niveau du particulier, et donc des points de ce qu'on appelle les points d'apport volontaire. Vous pouvez avoir dans certaines agglomérations du porte-à-porte, c'est-à-dire qu'on va venir vous ramasser le mardi soir à 20h30 vos bouteilles, ou on va venir vous ramasser le samedi soir vos emballages, etc. Bon, c'est pas très répandu encore dans notre région en tous les cas. Les piles, ça c'est plutôt les... Donc soit c'est dans des commerces, donc vous allez... dans des commerces d'électronique, vous avez en général des boîtes qui récupèrent les piles, vous en avez même dans les grandes surfaces, et puis vous avez, donc pour tout ça d'ailleurs, vous avez les déchetteries. Donc je vais parler juste après. Les déchets toxiques, donc là clairement, il n'y a pas d'autre solution que les amener en déchetterie. Les batteries, on peut avoir les professionnels, bien sûr. Donc vous achetez une batterie ancienne, vous redonnez votre batterie neuve. Et les vieux pneus, d'ailleurs, on peut aussi avoir les professionnels. Voilà. Donc ces six types de déchets, je dirais que les filières sont relativement en place depuis un certain temps. On a des récupérations de déchets un peu plus récentes. On a notamment tout ce qui concerne les déchets d'appareils. Ça s'appelle un nom barbare, je suis désolé, les D3E. C'est en gros les déchets électroniques, électriques, et puis je sais pas quoi. Enfin bon, c'est tout ce qui est. Donc ça va depuis l'ampoule jusqu'à la télé, etc. Donc ça, c'est pour tout ce qui est électronique, on va dire. On a également, donc c'est récent aussi, les produits... électroménager. Donc ça, c'est très récent. Il y a un système qui a été mis en place. Maintenant, vous pouvez exiger que la personne à laquelle vous achetez un réfrigérateur récupère son réfrigérateur pour le recycler. Bon, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas vous donner tous les détails, mais rappelez-vous de ça. Voilà, il y a toute une partie de recyclage des déchets qui est importante et qui permet donc finalement de sortir de vos poubelles de résiduelles un certain nombre de déchets qui sont soit faciles à recycler, soit qui sont dangereux. Et enfin, on en arrive au traitement, enfin ce qu'on appelle le traitement. Donc dans ce qui reste dans vos déchets, vous avez donc des déchets qui sont relativement mélangés, on va dire. Donc dans lequel vous allez avoir par exemple ce qu'on appelle des déchets fermentescibles. Tout ce qui est résidus d'épluchures de légumes, mais il peut y avoir aussi des coupes de déchets verts, etc. Donc tout ce qui est fermentescible, en fait, c'est tout ce qui est d'origine biologique et qui peut devenir éventuellement du compost. D'accord ? Là-dedans, vous allez retrouver forcément des métaux, vous allez retrouver forcément aussi un peu de verre, etc. Bon. Donc là, on a un certain nombre de déchets dits inertes. Un déchet inerte, c'est un déchet qui, en lui-même, posé dans la nature, ne pollue pas. D'accord ? Donc ces déchets-là, on peut les mettre en décharge, par exemple. Bon, il n'y aura pas de souci. On a un souci avec la fermentescible. Je vais en parler. Et on a un souci avec les déchets toxiques qui n'ont pas été triés. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a encore beaucoup de gens qui mettent des déchets toxiques. Voilà. Donc face à tout ça, on a en gros trois grandes filières. Donc celle qui est connue, c'est la mise en décharge, bien sûr. On a l'incinération. Sujet ô combien polémique dans les Bouches-du-Rhône. Et puis on a donc tout ce qui est compostage. Donc la mise en décharge, on fait un trou, on apporte les déchets. Alors ça se fait de façon beaucoup plus raffinée, entre guillemets, si j'ose dire, que ça se faisait auparavant. C'est-à-dire qu'on met des membranes pour étancher le sol, on met des systèmes de captage, des lixivia, je ne vais pas rentrer dans les techniques, mais vous pouvez avoir des quand la pluie ruisselle sur les déchets, il y a une espèce de jus qui sort, qui pose problème dans les nappes. Donc il y a des systèmes de récupération de lixivia, et puis des systèmes de récupération du méthane. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, une décharge d'aujourd'hui, bien gérée, c'est quand même pas la décharge d'hier ou avant-hier. Je vais traiter le compostage d'abord. Donc le compostage, c'est quoi ? C'est en gros essayer de prendre les déchets fermentescibles, si on peut les sortir du reste, pour en faire un retour à la terre. Que dans ces déchets fermentescibles, donc qui sont principalement des déchets d'aliments, hein, ces déchets, quand ils sont compostés, c'est d'excellents amendements pour les terres agricoles, pour les forêts, par exemple, méditerranéennes, pour des stades, pour tout ce qu'on veut. Donc voilà, le compostage, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on essaye de pousser. Enfin, là, tout ce qui est le traitement des fermentescibles, c'est pas facile toujours, parce qu'il faut des débouchés, il faut trouver des composts qui soient de qualité, donc qu'il n'y ait pas de traces de métaux lourds, etc. Donc il y a des normes derrière. Mais voilà, en matière de politique actuelle, tout à l'heure je vous ai dit qu'on mettait l'accent sur la réduction des déchets à la source, dans la partie collecte. S'il faut se souvenir, aujourd'hui, dans la partie traitement, on essaie de mettre l'accent sur le compostage. Et puis donc, on a l'incinération. Alors je vais peut-être rapidement revenir sur mise en décharge et incinération. Donc une décharge... Vite fait. Donc on amène au fur et à mesure des déchets. Normalement, on fait des couvertures intermédiaires avec de la terre pour éviter les envols, pour éviter les oiseaux, etc. Donc on fait des couches comme ça. Donc au fond, on a mis des drains qui permettent de récupérer les lixivias. Et puis, dès le départ, on prévoit également des drains beaucoup plus gros qui partent vers le haut, eux, et qui vont permettre de récupérer le méthane. Parce que dans les décharges, il y a forcément encore du fermentescible, ça dégage du méthane. Le méthane, c'est un gaz, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'effet de serre, donc on y parle beaucoup de carbone, de CO2. Le méthane à volume égal, c'est 14 fois plus impactant sur le changement climatique que le CO2. Donc intéressant de le capter et évidemment d'en faire quelque chose, donc soit de le brûler, soit de chauffer des logements, fabriquer de l'électricité, tout ce qu'on veut. Et à la fin, cette décharge, quand elle est en fin d'exploitation, on vient la couvrir avec un certain nombre de textiles, de géomembranes, etc. Donc voilà, en gros, une décharge moderne. L'incinérateur, bon, il n'y a pas de dessin particulier à faire, mais bon. Donc l'incinération, vous avez vos déchets qui entrent, donc vous avez des fours, donc avec deux problèmes. Vous avez donc les émissions donc aériennes. Et vous avez pas les refus, comment on pourrait appeler ça, les cendres, quoi, on va dire. Et les mâchefers. Donc premier problème, c'est les émissions donc de ces usines d'incinération. Donc il faut savoir que dans les émissions donc de ces usines d'incinération, il y a quelques produits qui sont extrêmement dangereux, c'est ce qu'on appelle les dioxines. Alors je dis les dioxines parce qu'il y en a à peu près 240 de dioxines différentes, dont 120 ou 140 cancérigènes. Donc c'est un terme générique, hein, ce n'est pas une molécule particulière. Donc le problème des dioxines a été quand même vu depuis longtemps, hein. Alors les dioxines, il faut savoir que plus la centrale est petite, plus on produit de dioxines par rapport à la quantité de traitement de déchets qu'on traite. Donc en fait, plus l'installation est importante, moins on fait de rejets toxiques ramenés à la tonne de déchets. Et puis, surtout, on a mis en place des réglementations donc, successives, donc, qui sont issues soit de l'Europe, soit de la France, qui ont en gros fait que, à la tonne de déchets brûlés identiques, hein, on parle bien de déchets qui ont la même composition, on a diminué à peu près par 20 la quantité de dioxine qu'on émet. Pour vous donner une idée, le fameux incinérateur de Die de Marseille, qui est donc s'implante sur fosse, va produire à peu près 0,4 g de dioxine par an. Sachant que, oui, vous allez dire c'est minuscule, la production française de dioxine, c'est 120 grammes. Hein. Donc c'est quand même des choses qui se mesurent en microgrammes plutôt qu'autre chose. Donc ce que je veux dire, voilà, la partie dioxine, c'est quelque chose sur lequel on a fait d'énormes progrès. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé, mais ça veut dire qu'il faut relativiser ça. À titre indicatif, si je prends ce 0,4, l'usine Solac de Fos en émet 8 par an. Donc ça fait l'équivalent de 20 incinérateurs. Et puis donc le deuxième problème qu'on a, c'est la récupération de ces mâchefers. Alors les cendres, ça va encore, mais les mâchefers, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ce matériau, c'est une espèce de matériau qui est un peu aggloméré, qui a une couleur un peu rouille. Ces mâchefers doivent être stabilisés avant d'être réutilisés. On peut les réutiliser pour des usages BTP, etc. Donc voilà, rapidement, c'est peut-être beaucoup dire, mais ce que je peux vous dire en quelques mots sur les déchets ménagers. Alors sur les déchets d'entreprise, bon, je ne vais pas recommencer les filières, etc. Je vais simplement vous signaler les différences. Donc déchets d'entreprise, du coup. Alors, premièrement, c'est la réglementation. Alors, c'est inconnu d'énormément de gens qui est responsable des déchets des entreprises, à votre avis. Tout au long de leur vie, hein. C'est-à-dire si un jour on arrive à démontrer que quelqu'un est mort parce qu'il a ingurgité un déchet de l'entreprise machin bidule, qui est-ce qui sera embêté? Non. C'est l'entreprise elle-même. Et ce n'est pas du tout la personne qui l'a collecté, ce n'est pas la personne qui a inventé le produit, c'est l'entreprise qui l'a produit, ce déchet-là. Donc on ne va pas aller chercher en responsabilité pourquoi ce produit était dans le process de l'entreprise. On ne va pas aller chercher en responsabilité l'entreprise qui a traité le produit. On ne va pas rechercher en responsabilité la collectivité qui a pu le ramasser ou le gars qui l'a mis dans sa décharge. Bon, ça, enfin, si on arrive à retrouver d'où ça vient. Donc ça, c'est très important. C'est l'entreprise qui produit le déchet qui est responsable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en théorie, c'est à elle de s'assurer que son produit est normalement traité. Donc c'est à elle normalement à payer la collecte, c'est à elle à payer le traitement et à vérifier que le traitement fait en sorte que ces déchets ne sont plus dangereux pour à la fois l'environnement et la santé publique. Donc, responsabilité, et donc problème d'environnement, santé publique. Donc, ça veut dire que la règle normale, ce serait que les entreprises s'occupent elles-mêmes de leurs propres déchets. Donc, évidemment, sur la taille d'entreprise, ce n'est pas possible. Donc, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui traitent elles-mêmes déjà leurs déchets, autotraitement, on va dire, donc des gros sites industriels, s'occupent du recyclage d'un certain nombre de leurs déchets ou de l'élimination d'un certain nombre de déchets, toujours dans la réglementation, bien sûr. Ensuite, on a donc des prestataires qui sont payés par les entreprises. Payés, d'accord. Et puis, on a toujours, donc, les collectivités qui, normalement, ne sont pas censées prendre ces déchets, notamment pas en avoir la responsabilité, qui continuent à ramasser. Parce qu'on parle de déchets d'entreprise, je ne parle pas que des déchets des entreprises très polluantes, ça peut être les déchets du marchand de fringues de la rue de Rome, c'est aussi des déchets d'entreprise. Donc, ce qui se passe, c'est que les collectivités ont tendance quand même à ramasser un certain nombre de déchets d'entreprise et que ça pose problème. Donc, on va voir que là-dessus, on a une obligation, normalement, qui est la mise en place de la redevance spéciale, c'est-à-dire que c'est de façon à ce que les entreprises dont on collecterait certains déchets contribuent au financement des déchets. C'est pas normal, ce soit que les ménages qui payent. Donc ça, c'est un outil financier pour que certaines collectivités qui collectent ces déchets les réutilisent. Bon, réglementation, pas trop grand-chose à en dire de plus. Un point très important, c'est donc sur la réduction à la source, comme j'ai dit tout à l'heure, on y revient. C'est en fait un travail qui est fait à l'intérieur de l'entreprise ou du chantier, hein, puisqu'on peut aussi faire ça sur des chantiers de BTP notamment, c'est faire en sorte qu'on ait moins de déchets produits. Donc, par exemple, diminution des chutes. Du réemploi interne à l'entreprise. Donc tout ça, ça va dans un sens de diminuer effectivement les déchets qui sont à traiter derrière. Après, les modes de traitement, c'est à peu près ce que je vous ai signalé, sauf que bien sûr, dans les entreprises, on aura beaucoup plus de déchets toxiques, donc ça y aura par rapport à ce qu'on trouve dans des déchets des ménages, mais les systèmes de traitement sont les mêmes. On ne va peut-être pas y revenir de façon particulière. Donc voilà sur les déchets d'entreprise, un petit peu ce qu'il y a de particulier. Alors maintenant, peut-être les dernières évolutions en matière de donc les actualités, on va dire, en matière de traitement de déchets. C'est intéressant que vous soyez au courant des dernières évolutions. Donc tout à l'heure, je vous l'ai déjà dit, on va travailler sur la réduction à la source. On va travailler un peu plus sur tout ce qui est fermenté cible. Au niveau des unités de traitement, il y aura toujours donc un durcissement de la réglementation donc pour les émissions, par exemple, les rejets donc de tout ce qui est traitement. Donc pour arriver à ça, qu'est-ce qui est en train de se faire? Première chose, donc ça c'est dans le cadre du Grenelle de l'environnement, vous avez dû entendre parler de ce machin. Donc le Grenelle de l'environnement, ça a quand même débouché sur un certain nombre de décisions qui impactent beaucoup de thèmes, notamment les déchets. Donc le Grenelle de l'environnement, qu'est-ce qu'il fait? Il a, première chose, il a augmenté de façon significative la redevance de mise en décharge. C'est-à-dire que une collectivité donc paye une redevance en fonction du tonnage qu'elle met en décharge. Donc ça, c'est un moyen financier important pour que les collectivités se remuent un peu pour mettre en place des collectes sélectives, etc. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est mise en place. Alors ça va concerner les particuliers, c'est très original. C'est pratiqué dans certains pays, ça marche très bien. Donc c'est un peu le même système, c'est une redevance dite incitative. Alors la redevance incitative, c'est quoi? C'est un principe très simple. C'est que chaque particulier paye en fonction des déchets qu'il met dans les poubelles. Donc c'est très compliqué à gérer, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça peut se faire avec des systèmes de cartes, de traceurs, de puces, etc. Donc ça, c'est important à signaler. Et alors qu'aujourd'hui, vous payez une taxe à l'ordure ménagère, ça dépend de la surface de votre logement, ça dépend d'un certain nombre de choses. Mais si vous faites des efforts pour trier vos déchets, ça ne se répercute pas du tout sur votre facture. Donc voilà quelque chose qui est intéressant. Et puis, il y a également la mise en place de plans de prévention. Donc ça, c'est un petit peu au niveau collectif, en matière de collectivités locales. Donc c'est des choses qu'on va... Tout ça, on va l'accompagner, bien sûr, à la fois au plan technique et financier. C'est les plans de prévention. Donc c'est mettre toutes les collectivités en mouvement pour sensibiliser à la fois les entreprises, les commerçants et les particuliers à la prévention. Donc voilà, sur les déchets, ce que j'avais à dire. Alors, un petit zoom quand même sur les déchets du BTP, puisque... CFA BTP, je ne peux pas en parler. Donc, quelles sont les spécificités des déchets du BTP avant de passer au sol pollué, qui est un sujet quand même moins compliqué. Alors, les déchets du BTP. Donc, quand vous avez un chantier de BTP, vous avez des déchets. La principale source que vous allez avoir, les déchets du BTP, pour mémoire, on produit quasiment autant de déchets du BTP, si ce n'est plus, en tonnes, que de déchets des ménages. Donc ça, c'est une chose à savoir. Alors, dans la période qui se termine, peut-être qu'avec la récession, ça va changer, en tous les cas. Le tonnage, hein, je parle bien, des déchets du BTP, je parle bien que du BTP, pas des entreprises, est supérieur aux déchets ménagers. Donc, vous faites un petit calcul. On n'est peut-être pas à une tonne par habitant, mais on doit produire plusieurs dizaines de millions de tonnes de déchets du BTP. Alors dans ces déchets, on a de la chance, il y a quand même beaucoup de déchets dits inertes. Je l'évoquais tout à l'heure. Donc c'est quoi ces déchets inertes? C'est les gravats, absolument. La terre. Je parle de chantier de terrassement. Dans des chantiers où on fait de la déconstruction, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Oui, l'amiante, c'est un mot, on va peut-être le garder pour plus tard. Je ne vais pas le mettre dans les déchets inertes, effectivement, il y a de l'amiante. Non, mais là, on essaye de voir les déchets inertes, ceux qui n'ont pas de danger pour la santé publique. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le bâtiment? Le béton, absolument, le béton. Oui, quand on déconstruit, on casse du béton. Les ferrailles. Qu'est-ce que vous voyez d'autre qui ne pose pas de problème, qui n'est pas toxique? Plastique, oui, certains plastiques. Quoique, alors là, on est peut-être un peu entre les deux. Tu penses à quoi? Au PVC, par exemple? Bon, et donc dans les déchets toxiques, il y en a un auquel vous avez pensé tout de suite, bien sûr, c'est l'amiante. Parce que quand on a des chantiers de déconstruction, on se retrouve souvent sur des bâtiments qui ont été faits dans les années 70-80 où on utilisait l'amiante comme matériaux de lutte contre l'incendie. Donc c'est un vrai problème. Le traitement de l'amiante, c'est extrêmement compliqué. Il faut confiner les surfaces. L'amiante, c'est très cancérigène. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait sur place. On ne traite pas de l'amiante. Donc dans les déchets qu'on peut retrouver toujours dans le BTP, qu'est-ce que vous avez d'autre? Les métaux, oui. Alors vous n'avez pas cité quelque chose? Bon, je sais bien qu'on n'a pas beaucoup de constructions comme ça, mais dans toutes les constructions, on en a. Les portes, elles sont faites en quoi? Les fenêtres? Voilà, du bois. Donc vous voyez qu'en gros, quand vous faites un chantier de BTP, vous arrivez avec une benne. Si vous n'avez pas fait un tri sur votre chantier de déconstruction, par exemple, ou de construction, alors construction, on va en reparler, vous avez des emballages, vous avez un certain nombre de déchets qui sont liés aux matériaux neufs que vous allez mettre en œuvre. Vous avez donc un certain nombre de déchets en mélange. Donc soit vous les avez traités au moment des déchets, au moment pardon, du chantier, donc il y a un tri sur chantier, et ça commence à beaucoup se faire. Certains maîtres d'ouvrage l'imposent même dans les cahiers des charges, hein, donc vous oblige à avoir une benne pour les déchets type gravats, une benne pour les plastiques, une benne pour les emballages, une benne pour les ferrailles, etc. Mais ce n'est pas encore la majorité des cas. Et puis après, on a un tri dans des centres de tri. Donc les centres de tri, ils reçoivent en gros des déchets mélangés, et c'est à eux de séparer les gravats, des ferrailles, etc. Donc il faut savoir qu'il y a des technologies, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, qui permettent par des problèmes en mettant des choses à tremper, en faisant des centrifugations, en mettant des aimants, etc., de séparer de façon quasiment parfaite ces différents trucs. Le seul problème qu'on va avoir, un des problèmes qu'on a, c'est le bois. Parce que les bois qu'on utilise dans la construction, très généralement, ils sont peints et ils sont traités. Donc on a un vrai problème avec le bois, c'est que ce bois, par exemple, c'est ce qu'on appelle les bois adjuvantés. On ne va pas pouvoir, par exemple, les brûler aussi facilement que ça. On pourra difficilement les réutiliser. Donc c'est un sujet qui est un peu compliqué. Donc voilà sur les déchets du BTP. Là, je ne vais pas non plus trop m'apesantir. Si on veut parler des sols pollués avant que j'explose les compteurs. On pourrait y revenir, bien sûr, avec les questions. Je vais avoir des problèmes pour finir les fesses. Alors, les sols pollués. Alors, à votre avis, pourquoi un sol est pollué? Qu'est-ce qui a créé une pollution? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, tiens, ce sol est pollué? Pardon? J'ai pas entendu. Non, les analyses, ça, c'est la preuve. Non, mais excuse-moi. Non, mais qu'est-ce qui fait qu'un sol est devenu pollué? J'en suis pas à la façon de savoir s'il l'est. Les fûts percés, oui. Ensuite. Bon, enfin, on ne va pas faire une intro écrite, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une activité humaine. Et une activité principalement industriel. Qu'est-ce qui représente la majeure partie des sites pollués qu'on a, des sols pollués qu'on a en France aujourd'hui? C'est une activité industrielle, souvent ancienne, qui s'est développée à une époque où on n'avait pas du tout de normes de rejet. C'est-à-dire que vous aviez une usine de traitement de surface, le gars il mettait ça sur le sol, vous aviez des gens qui avaient des rejets à queue, qui étaient pleins de saloperies, ils les mettaient dans les égouts, etc. Sans aller si loin, vous allez à l'étang de Berre. L'étang de Berre, l'industrialisation remonte aux années 50, hein, 45-50, c'est pas si vieux. Au début, ils mettaient tout dans l'étang de Berre. Donc là, ils ont diminué par 150 ou 200 les rejets dans l'étang de Berre, ne serait-ce que les déchets à queue. Donc pour revenir au sol, c'est principalement de l'activité industrielle. On peut avoir aussi de l'activité agricole, mais c'est principalement de l'activité industrielle. Comment ? Des rejets à queue, c'est des rejets dans l'eau, excuse-moi. Des rejets dans l'eau. Donc vous avez trois rejets, enfin polluants, hein, dans l'air, on n'en parle plus parce que le sol, il y a longtemps que ça s'est dispersé. Vous avez donc des sols pollués, vous pouvez aussi avoir des nappes polluées, effectivement. Si vous polluez de l'eau, ça va dans les nappes, c'est un peu plus compliqué. Donc on va s'arrêter au sol pollué, donc ça vient principalement d'une activité industrielle. Donc on retrouve en fait dans le sol qui se situait là où, à l'endroit où existait l'activité, qui est d'ailleurs encore des bâtiments ou pas, hein, ça ne change rien, on se retrouve avec une masse de sol naturel qui est rempli d'un certain nombre de polluants, et c'est là qu'interviennent les analyses pour effectivement savoir de quel polluant il s'agit, si c'est de l'huile, si c'est des dioxines, si c'est du mercure, des métaux lourds, etc. Donc je ne vais pas vous détailler le type de polluants qu'on peut avoir, mais on peut rapidement les dire, hein. On a des huiles. Alors ce qui est très dangereux, c'est les métaux lourds. Donc on en a évoqué un tout à l'heure qui était le plomb. Je ne sais pas si vous connaissez les notations. PB, bon. Le plomb. On a le mercure. Donc ça, le mercure, je ne sais pas si vous savez, à l'heure actuelle, on s'est tellement rendu compte que c'était dangereux, vous n'avez plus un seul thermomètre au mercure. C'est interdit de vendre depuis 10 ans. Donc le mercure, c'est un métal lourd extrêmement dangereux. On a d'autres métaux lourds, que je ne vais pas vous en donner une liste exhaustive, mais bon, il y a un certain nombre de métaux lourds qui impactent la santé. On a effectivement des dioxines. Où est-ce qu'on va retrouver des dioxines? Aux endroits où on avait des transformateurs EDF. Le liquide qui s'y sert de refroidissement au transformateur EDF, c'est de l'hexafluorure de soufre, SF6 ou quelque chose comme ça. Et ils contiennent des dioxines. Et quand on démonte des transformateurs, soit les transformateurs ont fui, soit on les démonte, et on se retrouve avec des dioxines, donc c'est un vrai problème. Pardon ? La dioxine dans les transfo, elle est liquide, oui. Seulement, si tu veux, elle va rentrer dans le sol, elle va l'imbiber. Et la vraie problématique des sols pollués, j'y arrive, c'est qu'on a un mélange. On a de la terre, des gravats et de la pollution. Donc pour traiter ces mélanges, c'est assez compliqué, parce que soit on a une granulométrie, donc la taille du sous-sol. Par exemple, si on a des graviers, on peut imaginer de laver, entre guillemets, hein, suivant la granulométrie, donc on peut avoir un lavage, quasiment, enfin j'exagère, mais... Autrement, la solution bête et méchante, c'est de tout enlever et de tout amener dans une décharge spécifique pour des déchets pollués, qui est confinée, donc on excave tout, on prend tout, on met dans des camions, on s'en va. Donc ça, c'est un petit peu la solution radicale, qui est souvent employée encore, donc c'est en fait le... comment on pourrait dire... c'est le retrait, quoi, c'est la... On enlève les déchets. Donc toujours pareil, avec des analyses, on va tester jusqu'où ça peut être dangereux et on va enlever que la partie qui est suffisamment polluée. Et la dernière chose donc, qui est moins connue, c'est le traitement. Et notamment, donc, ce qui permet de laisser en place, parce qu'on peut avoir des volumes énormes avec une très faible pollution. Le système de retrait, c'est intéressant si vous avez quelque chose qui est extrêmement pollué. C'est-à-dire que vous avez plus de polluants quasiment que de terre. Vous n'allez pas vous amuser à essayer de nettoyer la terre pour en récupérer 10%. Donc là, on enlève. Si par contre, on a un traitement, une pollution un peu diffuse, on peut peut-être essayer, si ça concerne des centaines de milliers de mètres cubes de terre, de traiter donc cette terre polluée pour la laisser sur place. Donc là, on a des traitements chimiques et physiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, là aussi, ce serait extrêmement long. Physico-chimiques. Et on a, ça c'est un peu plus récent, des traitements biologiques. Pour certains polluants, les chercheurs, notamment les biologistes et les biochimistes, ont trouvé des petites bêtes, hein, je vous fais simple, des enzymes, des choses comme ça, qui permettent de digérer quelque part la pollution, même y compris de la pollution industrielle. Ce n'est pas uniquement de la pollution ménagère. Voilà, et dernière chose sur les sols pollués, avant de me faire assassiner par les organisateurs, parce que j'ai bien conscience que j'ai dû dépasser les 45 minutes allègrement. Dernière chose en ce qui concerne les sols pollués, c'est que les sols pollués, en fait, on en a... Première chose, c'est le recensement. Donc il faut savoir qu'il y a un travail de recensement qui est quasiment terminé en France. On a recensé tous les sites pollués qui existent sur le territoire français. C'est en train de se terminer. L'organisme qui a fait ça, donc recensement de tous les sites. Alors tous les sites, c'est tous les sites, y compris les plus insignifiants, hein. Vous avez un garagiste qui est parti, une station-service qui a fermé, etc. On est allé sur le terrain, enfin pas moi, ont été recensés. Donc il y a une base de données. Donc, l'organisme qui a fait ça, c'est le BRGM, donc Bureau de Recherche Géologique et Minière. C'est un peu un cousin de l'ADEME, on va dire. Et c'est dans une base de données qui s'appelle BASIAS, qui est assez utilisée d'ailleurs par les urbanistes et les architectes pour savoir si quand ils prévoient une opération d'urbanisme, il y a un problème de pollution du sol qu'ils n'ont pas forcément détecté. Et dans cette base de données, donc vous avez la liste de tous les sites, vous avez le nom de l'exploitant quand on a pu le retrouver, la date donc de fin d'exploitation, les types de polluants. Alors c'est pas une analyse hyper fine de tous les détails, mais en gros, quel type de polluants ils ont retrouvé sur ce site. Type de polluants, et puis quelque chose qui donne à peu près une idée de l'impact, c'est-à-dire la taille, la surface, le volume, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc ça déjà, il y a une première chose qui a été faite, c'est le recensement de ces sites. Alors après, ces sites, de deux choses l'une, où ils sont considérés comme non dangereux, Est-ce qu'on peut avoir des sites stabilisés depuis un moment? Il n'y a pas d'activité humaine autour. Donc ces sites non dangereux, on ne va pas forcément essayer de les dépolluer en premier. Et après, il y a des sites dangereux. Donc dans ces sites dangereux, pour la santé publique, hein, donc c'est bien un problème de santé publique. Hein. Donc sur ces sites dangereux, on va avoir trois cas. Le premier, c'est on connaît et il existe toujours l'exploitant du site. Par exemple, une entreprise a pollué un sol, elle existe toujours, elle a fermé le site, mais juridiquement, on sait où elle est. Donc c'est à elle de refaire, c'est l'exploitant. Et à défaut, c'est un peu plus gênant, le propriétaire du sol, qui n'est pas forcément le même. Parce que vous voyez bien le jeu de la patate chaude. Une industrie ferme, une collectivité a envie d'ouvrir l'urbanisation à un secteur, elle achète donc les terrains au gaz sans avoir fait de diagnostic précis de la pollution, et c'est elle qui va devoir se payer la remise en état du site s'il est dangereux, qu'elle veuille en faire quelque chose ou pas d'ailleurs. Le deuxième cas, c'est l'ADEME. Alors, dans quel cas l'ADEME interviendra? Parce que nous, on est maître d'œuvre de travaux de réhabilitation de sol. C'est dans le cas où on n'a trace ni de l'exploitant ni du propriétaire. Donc c'est une procédure assez compliquée, mais bon, sachez qu'au niveau de l'ADEME, c'est centralisé d'ailleurs dans 5 ou 6 interrégions avec des correspondants régionaux. Là, je vais en avoir un bientôt. Donc c'est nous qui allons voir les sites. Donc il faut que ce soit déclaré comme dangereux, que le ministère demande qu'on intervienne, etc. Et c'est de l'argent public qui est utilisé pour réhabiliter ces sols qui sont considérés comme dangereux. Et enfin, le dernier cas, ils peuvent être dangereux et dans des opérations d'urbanisme ou d'aménagement dans lesquelles le maître d'ouvrage de cette opération était parfaitement au courant qu'il y avait un problème de pollution. Donc là, on ne peut pas dire qu'il va essayer de se retourner contre l'exploitant, le propriétaire. On ne peut pas dire que c'est l'ADEME qui va le payer puisque le gars le savait. Donc c'est à eux de le faire. Et dans ce cas seulement, donc là l'ADEME finance tout, hein, il y a des subventions qui peuvent être mises en place pour aider ces travaux. Donc voilà, je vais peut-être arrêter ma longue digression et laisser la place aux questions et au débat, parce que j'imagine que vous avez beaucoup de points qui ont dû vous paraître survolés rapidement ou compliqués à comprendre. D'autres choses que j'ai pas évoquées, donc n'hésitez pas. Voilà. Sans façon. Vous direz ça à la fin des débats, peut-être. Donc, je ne sais pas comment. Parce que mon idée, c'était surtout de vous entendre.